Bonsoir ou peut-être bonjour, bienvenue dans RFI Soir puisqu'il est 19h ici à Paris.
RFI Soir, Philippe Le Caplain.
Voici des faits, des commentaires, des reportages et des analyses. Tout de suite le journal. Bonsoir Benoît Almeras.
Ouais, bonsoir Philippe, bonsoir à tous. À la une, elle s'appelait Maya Tuetwe Keng. Le mouvement pro-démocratie de Birmanie a rendu hommage aujourd'hui à sa première martyre, victime de la répression militaire. Le Niger, endeuillé le jour de sa présidentielle, 7 membres de la commission électorale ont été tués par l'explosion d'une mine dans l'ouest du pays. Optimisme prudent sur le front du nucléaire iranien, les autorités de la République islamique se félicitent de discussions fructueuses avec le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et en fin de journal, Sarah Loubacouche reviendra sur l'actualité sportive chargée de ce dimanche entre la nouvelle victoire de Novak Djokovic à l'Open d'Australie et le choc entre le Paris Saint-Germain et Monaco en clôture de la 26e journée du championnat de France de football.
En Birmanie, le mouvement pro-démocratie a donc rendu hommage à sa première martyre.
Maya Tuetwe Keng, épicière de 20 ans, devenue icône de la résistance anti-junte, a été enterrée aujourd'hui près de la capitale Naypyidaw. Des funérailles très suivies au lendemain de la journée la plus sanglante depuis le début des manifestations contre le coup d'État du 1er février dernier. Cléa Broderst revient sur cette nouvelle journée de mobilisation.
Plusieurs milliers de personnes ont assisté aux funérailles de Maya Tuetwe Keng, blessée par balle à la tête et décédée vendredi. 3 doigts levés en signe de résistance, la foule a scandé « Nous nous battrons jusqu'à la victoire » au passage de son cercueil. Ils étaient également des milliers à Rangoon, la capitale économique du pays, tout comme à Mandalay, où la répression la plus sévère depuis le coup d'État s'est déroulée samedi. Les médecins et secouristes présents sur les lieux ont confirmé que les victimes ont été touchées par des tirs à balles réelles. Par ailleurs, l'acteur Lumin, la tête d'affiche des manifestations à Rangoon, a été arrêté dans la nuit. Il est l'une des 6 personnalités dans le collimateur de l'armée pour avoir incité à la violence et encouragé les fonctionnaires à rejoindre le mouvement de grève. Il pourrait être condamné à une peine de 2 ans de prison. Facebook, le principal outil de communication en Birmanie, a annoncé de son côté avoir bloqué la page de l'armée Tatmadaw True News Information Team pour incitation à la violence. Les généraux avaient, par ce biais, justifié leur putsch en alléguant que des fraudes électorales avaient eu lieu en novembre.
On l'a appris il y a un peu plus d'une heure, au Niger, au moins 7 agents de la commission électorale ont été tués.
Une mine a explosé au passage de leur véhicule près de la localité de Dargol dans l'ouest du pays. Le drame s'est produit ce matin alors que le pays votait pour le second tour de la présidentielle. Les bureaux de vote qui sont d'ailleurs officiellement fermés au Niger. On revient sur ce scrutin dans Afrique Soir dans une vingtaine de minutes sur
RFI. Et puis en Libye, le ministre de l'Intérieur, Fatih Bachaga, a échappé à une tentative d'assassinat.
L'attaque s'est déroulée cet après-midi sur une autoroute proche de Tripoli. Des assaillants à bord d'une voiture blindés ont tiré sur le convoi du ministre. L'escorte policière qui suivait l'homme politique a riposté. 2 des assaillants ont été arrêtés et 1/3 est hospitalisé.
En RDC, au moins 4 personnes sont mortes du virus Ebola.
De nouveaux décès enregistrés ces dernières 48 heures, 2 semaines après la réapparition de la fièvre hémorragique au Nord Kivu dans l'est du pays. Au total, les autorités ont enregistré 6 cas près de la ville de Butembo.
Et puis il y a aussi de l'Ebola en Guinée.
Ouais, le pays d'Afrique de l'Ouest qui a enregistré 5 décès depuis 2 semaines. On a appris que l'arrivée de 11 000 vaccins contre Ebola y a été reporté à demain.
Des discussions fructueuses, c'est ce qui ressort de la rencontre entre l'Agence internationale de l'énergie atomique et des responsables iraniens.
C'est en tout cas ce qu'ont assuré ces responsables aujourd'hui à l'issue de la réunion entre le patron de l'agence onusienne Rafael Grossi et les autorités de Téhéran. Une rencontre très attendue alors que l'Iran menace de limiter les inspections de l'AIEA sur son sol. C'est donc un optimisme prudent qui règne alors que les États-Unis annoncent des négociations en vue de rejoindre l'accord sur le nucléaire iranien de 2015. Pour le chercheur Thierry Coville, un apaisement est d'ailleurs possible.
Ce qui est positif quand même, c'est qu'il ne faut pas oublier, c'est que les États-Unis, depuis l'élection de Joe Biden, ont dit qu'ils voulaient revenir dans l'accord de 2015. Là où il y a des problèmes, c'est que manifestement, on a 2 positions différentes. C'est que les Iraniens disent bah, très bien, revenez dans l'accord de 2015 et supprimez toutes les sanctions. Les Américains disent non, nous, d'abord, on veut que les Iraniens agissent les premiers, c'est-à-dire qu'annulent toutes les mesures qu'ils ont prises suite à la sortie des États-Unis de l'accord. Et surtout, on veut ouvrir des nouvelles négociations sur un nouvel accord sur le nucléaire. Les Américains ne veulent pas lever tout de suite toutes les sanctions. Quand on a l'impression que les 2 stratégies sont presque opposées, Je pense qu'on est dans une phase où les deux pays font un peu monter la pression pour préparer ces négociations. Il y a des éléments positifs comme l'annonce, je crois, d'une réunion des 5+1. Les États-Unis seraient prêts à participer à une réunion donc des membres, des signataires de l'accord, ce qui est une première depuis la sortie des États-Unis de l'accord en mai 2018. On est à un seuil là, on est à une étape importante parce que si l'Iran arrête d'appliquer le protocole additionnel de l'Agence internationale de l'énergie atomique, là, ils sortent vraiment de l'accord. Donc j'espère, l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique sont en train de trouver un compromis qui permettrait aux deux camps de sauver la face et d'attendre en fait des vraies négociations qui permettraient d'aboutir.
Thierry Coville, spécialiste de l'Iran au micro d'Eike Schmidt, et j'ajoute qu'une conférence de presse du patron de l'AIEA, Raphaël Grossi, est prévue ce soir à Vienne.
20h05 à Tel Aviv, Israël qui lève peu à peu ses restrictions sanitaires contre le Covid.
Ouais, résultat de la campagne de vaccination en cours dans le pays, la moitié des résidents de l'État hébreu ont été immunisés selon les autorités. Ceux-là pourront retourner dans les salles de sport ou au cinéma si elles utilisent l'application Green Pass qui fait office de passeport vaccinal en Israël.
Quant à la bande de Gaza, elle a reçu ses premiers vaccins anti-Covid.
Oui, environ 20 000 doses sont arrivées aujourd'hui en provenance des Émirats Arabes Unis via la frontière égyptienne au sud de ce territoire palestinien. On rappelle d'ailleurs que l'autorité palestinienne a conclu un accord cette semaine avec Israël pour immuniser 100 000 Palestiniens qui travaillent dans l'État hébreu. Et toujours au sujet de la pandémie, les États-Unis s'approchent, eux, du seuil des 500 000 morts liés à la maladie, selon l'université américaine Johns Hopkins.
Et dans l'actualité, il y a également du sport.
Le journal des sports avec Sarah Loubacouche et on commence avec du football en France, la suite et la fin de la 26e journée de Ligue 1.
Oui, Lille vient de s'imposer 4-1 à Lorient. Lille récupère donc sa première place au classement. Le LOSC avait perdu son rôle de leader vendredi à la faveur de Lyon, victorieux à Brest.
Oui, Sarah Lou, mais l'affiche, le match que l'on attend et qui vient clore cette journée, c'est bien PSG-Monaco.
Le PSG 3e reçoit les Monégasques 4e. Paris, fort d'une semaine européenne couronnée de succès face au Barça, va tenter de s'imposer pour mieux se rapprocher du leader Lille, donc, qui devance le club de la capitale de 4 points. Les hommes de Mauricio Pochettino vont donc se frotter à un Monaco en pleine forme, invaincu depuis décembre. Mais la défense monégasque sera-t-elle à la hauteur? La formation a déjà encaissé 37 buts depuis le début de la saison. C'est 22 de plus que son adversaire du soir. Et c'est cette faiblesse qui pourrait leur porter préjudice, selon le milieu de terrain Aurélien Tchouaimani.
C'est vrai que c'est un point sur lequel on doit travailler. Voilà, on concède beaucoup de buts et pourtant on concède pas énormément d'occasions. Donc je pense qu'on doit être encore plus dur, encore plus concentré pour concéder le moins d'occasions possible, qui plus est face à des attaquants de cette trempe-là.
PSG Monaco, c'est ce soir à 20h TU.
Allez, on fait un petit saut vers les antipodes où Novak Djokovic a remporté haut la main son 9e Open d'Australie.
Le numéro 1 mondial a corrigé Daniil Medvedev en 3-7, à peine 2 heures de jeu. Un succès logique pour l'ancien joueur français Nicolas Escudé, qui ne s'attendait tout de même pas à une telle démonstration de la part de Monsieur Djokovic. On écoute Nicolas Escudé au micro d'Éric Mamrut.
Surpris de la teneur de la partie, parce qu'on ne s'attendait pas à un match aussi facile. Après, absolument pas surpris du niveau de jeu affiché par Novak Djokovic sur cette finale. C'est le patron du circuit, il est en chasse pour les records au niveau du nombre de tournois du Grand Chelem et il a affiché très clairement où il voulait aller et comment il voulait y aller.
Medvedev, qu'est-ce qui lui manque encore ?
De se frotter, et c'est la deuxième fois pour lui, plus régulièrement à ces joueurs-là sur des finales de Grand Chelem. Est-ce qu'on lui en a pas quelque part demandé trop vite ? C'est aussi dû à son niveau de jeu, ce qu'il était capable de pouvoir produire sur le terrain. Après, une finale de Master 1000, une demi, c'est pas la même chose qu'une finale de Grand Chelem, d'autant plus face à Novak Djokovic.
Et avec une 18e couronne en Grand Chelem, Novak Djokovic revient à deux longueurs de ses deux grands rivaux, Roger Federer et Rafael Nadal.
Alors Sarah Lou, on va dire un mot de ballon ovale pour finir, et le Covid qui continue de perturber le 15 de France.
Ouais, ce midi, la Fédération française de rugby a annoncé deux nouveaux cas chez des joueurs, Arthur Vincent et Julien Marchand. Mais l'annonce majeure, c'est bien le forfait du joueur phare des Bleus, Antoine Dupont, pour le match de dimanche prochain face à l'Écosse, pour la 3e journée du tournoi des Six Nations.
Et puis dans l'actualité sportive, il y a du ski. Le Norvégien Sébastien Fosse-Solvgaard, qui est devenu champion du monde tout à l'heure, pour la première fois à l'âge de 29 ans, sur le slalom de Cortina d'Ampezzo en Italie. Et puis Alexandra Tavernier, on ne la connaît pas, mais elle mérite les honneurs du 19h sur RFI. Elle a battu son propre record de France du lancer du marteau, 75m38. C'était l'heure des championnats de France qui se tiennent à Salon de Provence. Voilà, on pourra dire qu'on a été complet pour ce journal des sports.
Merci Philippe Le Caplin. Et c'est ainsi d'ailleurs que se termine cette édition sur Radio France Internationale. Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur notre site RFI.fr. Il est 19h10 ici à Paris. Merci d'écouter RFI. À Paris, et donc on retrouve Philippe Le Caplin pour la suite de RFI Soir.
Benoît Almeraz qui revient à 21h pour le journal en français facile.
Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Philippe Le Caplin.
L'actualité politique en France décryptée maintenant dans RFI Soir. Et c'est avec vous Frédéric Dabi, bonsoir.
Bonsoir.
Politologue, directeur général adjoint de l'Institut de sondage IFOP. Alors, il y a d'abord ce qui est devenu l'affaire Vidal, du nom de la ministre de l'Enseignement supérieur, qui a dit ceci cette semaine sur le plateau de CNews.
L'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l'université n'est pas imperméable, l'université fait partie de la société. Les universitaires sont conscients de cela et luttent contre cela.
Aujourd'hui, dans le journal du dimanche, Frédéric Vidal persiste et signe. Une enquête sera bien menée contre ce qu'elle appelle la gangrène de l'islamo-gauchisme dans les universités. En même temps, elle réfute vouloir mettre en place une police de la pensée. Pourtant, il y a eu un communiqué sceptique du CNRS, une tribune de 600 universitaires réclamant la démission de la ministre et puis l'indignation d'une partie de la gauche. Après une semaine mouvementée, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, affiche sa volonté de clore la polémique.
Je trouve hallucinant la place que prend ce débat dans le débat politique et médiatique. À un moment où la question qu'on se pose et qui nous mobilise tous, y compris Frédéric Vidal, c'est la question des étudiants et de leur capacité à traverser cette crise.
C'est elle qui fait cette déclaration, qui le redit à l'Assemblée nationale, qui accorde cette interview aujourd'hui. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, qui en reparle hier. On peut faire ce qu'on veut, nous, les médias, mais en l'occurrence, les membres du gouvernement remettent le sujet aussi en une.
Ce que je vous dis, c'est que si phénomène il y a, il est extrêmement marginal. Il ne s'agit évidemment pas de mettre en place une police de la pensée ou d'aller traquer les objets de recherche des chercheurs à l'université. Et enfin, que la priorité, c'est d'aider les étudiants à traverser cette crise.
Bref, le gouvernement veut passer à autre chose. C'était au grand jury RTL. Il n'empêche, l'eurodéputé écologiste Yannick Jadot demande que Dominique Vidal quitte le gouvernement.
La ministre de l'Enseignement supérieur qui porte la disqualification des chercheurs et de la recherche dans notre pays qui discrédite l'enseignement supérieur ne peut pas rester en poste. Maintenant, il y a une dérive. Quand le président de la République était candidat à l'élection présidentielle, souvenez-vous, il avait qualifié le colonialisme comme un crime contre l'humanité. Aujourd'hui, l'objectif de son gouvernement, c'est de mettre un policier de la pensée derrière chaque chercheur ou chaque chercheuse qui travaille sur ces sujets-là.
Alors Gérard Larcher n'est pas de cet avis. Le président du Sénat, qui était l'ULR, l'a dit sur BFM Télé.
L'université serait un lieu de liberté où toutes les opinions peuvent se confronter, bien sûr autour de cette forme de l'universalisme républicain. Demander la démission des ministres, de la ministre ou des ministres, ça n'a pour moi aucun sens.
Et maintenant, ce que dit le délégué général de La République En Marche, Stanislas Guérini, sur Europe 1.
De façon indubitable, effectivement, on voit aujourd'hui qu'une partie de la gauche, et précisément de l'extrême gauche, mélange sa voix, fait converger ses idées avec l'islam politique. Quand, il y a quelques jours, Jean-Luc Mélenchon revendique fièrement sa participation à une manifestation contre l'islamophobie, c'est la preuve indiscutable que oui, effectivement, il y a une convergence politique de ces deux thèses-là, et qu'ils essayent de faire leur lit dans une vision, au fond, sécessionniste de la société française. Ça, il faut le dénoncer, et non seulement le dénoncer, mais le combattre.
Autant donc de propos tenus aujourd'hui sur les plateaux de télé, dans les studios de radio. Frédéric Dabi, donc directeur général adjoint de l'IFOP, votre institut de sondage s'est penché sur cette affaire, sur cette polémique.
Oui, tout à fait. Et les Français donnent plutôt raison à Frédéric Vidal. Ils sont une majorité. Il y a même un sympathisant de gauche qui considère que l'islamo-gauchisme est un phénomène répandu aujourd'hui dans notre société, c'est-à-dire minimiser la menace représentée par l'islamisme radical, refuser de la dénoncer pour ne pas stigmatiser les musulmans vus comme un nouveau prolétariat, comme une minorité opprimée par une partie de la gauche et surtout l'extrême gauche. Et ils sont presque deux tiers à considérer que Frédéric Vidal a eu raison de diligenter cette enquête. parce qu'elle est ministre de tutelle. Mais au-delà de ce sondage, il y a un problème de timing. Et ça a été dit dans les sons que vous avez fait passer. L'idée que de mettre le projecteur sur l'islamo-gauchisme, c'est vu par beaucoup de Français comme une stratégie dilatoire, alors que le sujet pour les Français, s'agissant de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est d'abord la détresse et le malaise des étudiants dans ce contexte de Covid.
Alors justement, vous enquêtez régulièrement auprès des Français et de ces jeunes, de ces étudiants qui sont en pleine difficulté. Est-ce qu'il en ressort l'idée, on entend souvent cela, que cette jeunesse est sacrifiée, qu'il y aurait une génération Covid ?
Alors, faut être extrêmement prudent. Déjà, fait partie du folklore pré-présidentiel, pré-campagne présidentielle, de s'occuper de la jeunesse, de lui trouver toutes les vertus et de dire qu'elle souffre et que moi, candidat à la présidentielle, que ce soit un sortant ou des impétrants, va améliorer la situation de la jeunesse. Là, c'est vrai que crise du coronavirus impacte une partie de la jeunesse, pas toute la jeunesse, il y a plus des jeunesses, Philippe, qu'une jeunesse. Les segments les plus touchés, ce sont les étudiants. On a vu une enquête où un étudiant sur quatre considère avoir des difficultés à pouvoir manger tous les jours. Ce sont également les 25-29 ans, la génération de l'insertion qui est touchée de plein fouet par les conséquences économiques de la crise. Mais je suis frappé aussi de voir dans d'autres enquêtes l'optimisme de la jeunesse dans son ensemble et sa capacité de résilience. C'est vrai que dans cette pré-campagne présidentielle qui débute à bas bruit, en plus il y a ces élections régionales dans quelques mois, il y a un thème qui émerge très fortement, c'est le thème de la jeunesse. Ce n'est absolument pas une nouveauté, ça fait partie du folklore présidentiel.
Je reviens à Frédéric Vidal, qui est la ministre, quelque part, de cette jeunesse, en tout cas de ceux qui étudient dans les universités. Elle est très fragilisée, isolée au gouvernement. Seul le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, lui a apporté son soutien, alors que Jean Castex reste silencieux et qu'Emmanuel Macron garde ses distances. Est-ce qu'elle est devenue un caillou dans la chaussure de l'exécutif ?
Je pense qu'on peut pas le dire. C'est une ministre qui était très peu connue des Français avant ces différentes affaires. C'est plus le président qui a pris en charge directement la question du mal-être étudiant. Il y est allé les voir il y a quelques semaines dans une université, je crois, à Poitiers, si je ne me trompe pas. Cette ministre, maintenant, c'est vrai que se fait connaître par un sujet qui fait plutôt polémique, même si, je le répète, les Français sont plutôt derrière elle sur le danger islamo-gauchiste. Souvenez-vous d'un sondage IFOP fiducial pour CNews qui montrait qu'au lendemain de l'assassinat de Samuel Paty, qui reste un événement traumatique pour beaucoup de Français, ils étaient 87% à considérer que l'islamisme radical avait déclaré la guerre à la République.
Plus largement, régulièrement, l'IFOP sonde les Français sur la popularité des politiques. Sondage publié aujourd'hui dans le journal du dimanche, qu'est-ce qu'il en ressort ?
C'est quand même un président de la République qui garde une cote importante, non négligeable. C'est reste un président impopulaire. Il y a, je crois, 58% de Français mécontents, mais il a 42% de Français satisfaits. C'est un socle. Et il y a un acte qui a, je dirais, solidifié ce socle. C'est cette décision de ne pas reconfiner, où les Français ont eu l'impression que c'était une décision présidentielle. Il apparaît moins dans la main du Conseil scientifique dont les différents débats ont troublé les Français. Une décision française, car il n'a pas fait comme les autres pays européens. Il y a l'idée de résistance, voire de fierté, avec surtout ce qui frappe mois après mois, c'est le président qui a une sorte de glacis de popularité. Mois après mois, il a toujours trois quarts de soutien auprès de ses électeurs de 2017, le soutien d'un sympathisant de droite sur deux, d'un sympathisant de gauche sur trois, et ça, cette équation électorale ne bouge pas, ce qui lui assure ce socle relativement important. Deuxième dimension qui me frappe, il y a eu des critiques extrêmement fortes sur la gestion de la crise, les masques, les tests et maintenant les vaccins. Le président semble relativement exonéré. Il y a une dissociation entre cet attachement à la figure présidentielle dans un contexte de crise. Beaucoup de Français sont dans une logique de drapeau et serrent les rangs, et ces critiques très fortes sur la gestion de la crise.
Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI. Venons-en maintenant à deux autres sujets qui ne font pas forcément la une de l'actualité politique, mais dont il est question dans la perspective des prochains scrutins. Le vote électronique anticipé pour les élections présidentielles. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, était sur Radio J à la mi-journée.
Nous sommes en période de Covid. Nous essayons de trouver un certain nombre de moyens qui permettent aux gens de voter, y compris à distance. Et il y a des tas de pays qui le font. Regardez les États-Unis. Et c'est une grande démocratie. Il n'y a
voilà
pas de manipulation. Bien au contraire, le président sortant peut être battu. Chacun le voit.
Et voilà maintenant ce qu'en dit le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.
L'engagement de campagne du président, c'est de dire
il faut un vote électronique, parce que c'est une innovation démocratique. Et si on veut aller vers une société où on consulte davantage les Français, on leur pose plus régulièrement des questions, c'est plus simple d'avoir un vote qui se fait sur des machines électroniques. D'ailleurs, ça fonctionne. Moi, je suis élu d'une circonscription où, à Issy-les-Moulineaux, à Boulogne, il y a un vote sur machine électronique. Ça fonctionne bien. Il faut aller vers ça.
Le Sénat a retoqué cette mesure. Écoutez maintenant d'ailleurs son président sur une autre question soulevée ces derniers jours. Faut-il instaurer ou instiller de la proportionnelle lors des prochains scrutins parlementaires, le président du Sénat?
Moi, je suis personnellement hostile à la proportionnelle pour les élections législatives.
Pour ce qui est maintenant de Gabriel Attal, au nom du gouvernement...
Marine Le Pen, elle a réuni, je crois, 10 millions d'électeurs aux dernières élections. Dès lors que quelqu'un réunit 35% des suffrages au second tour d'une élection présidentielle, il n'y a pas à dire qu'on va contenir un mode de scrutin pour l'empêcher d'accéder à l'Assemblée nationale. Et moi, je trouve que ce qui s'est passé pendant ce quinquennat valide plutôt l'idée d'aller vers davantage de pluralité politique à l'Assemblée. Au moment des Gilets jaunes, on a beaucoup entendu qu'il fallait que les débats se tiennent davantage dans une plus grande pluralité dans l'hémicycle pour éviter qu'ils se tiennent dans la rue.
Oui, parce que certains font remarquer que Marine Le Pen, qui est arrivée deuxième à l'élection présidentielle, n'a finalement pas de groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Ce sujet de la proportionnelle, ça revient régulièrement, Frédéric Dabi, dans l'actualité française?
Oui, ça revient surtout dans la classe politique, ça n'intéresse absolument pas les Français, même si dans une enquête récente pour l'Union centriste du Sénat, on avait vu presque trois quarts des Français qui étaient favorables à une dose de proportionnelle pour les prochaines élections législatives. Mais ce sont des dimensions, Philippe, qui sont des aspects techniques. Ce qui intéresse les Français, c'est la question de la mobilisation électorale. Comment faire revenir les Français aux urnes dans un contexte de crise économique jamais vu, dans un contexte où les Français n'arrivent plus à se projeter, et surtout dans un contexte où qu'est-ce que c'est que l'histoire du quinquennat d'Emmanuel Macron depuis sa victoire à la présidentielle en 2017, c'est qu'à tous les scrutins suivants, législatives, européennes en 2019 et mars et municipales en mars et juin dernier, le premier parti de France, celui qui a dépassé 50%, ce sont les abstentionnistes. Et dans nos enquêtes qualitatives, les Français doutent que des dimensions, des outils techniques, même si c'est plutôt bien dit, comme le dit M. Attal, sur favoriser une plus grande diversité et pouvoir représenter des groupes à leur poids, Rassemblement National, France Insoumise, etc., ce n'est pas vu comme par les Français comme l'outil idoine. L'outil idoine, c'est reconvaincre une partie de nos concitoyens que voter est utile, car voter change la vie.
Merci Frédéric Dabi pour ces analyses et commentaires. Directeur général adjoint de l'Institut de sondage IFOP.
RFI Soir, Philippe Le Caplain.
Revenons à présent à l'actualité internationale avec le Love Jihad. Cette expression qui fait florès en Inde depuis 10 ans décrit une pratique dénoncée par les nationalistes hindous, une pratique imaginaire, des musulmans qui essaieraient d'épouser des femmes hindoues pour les convertir à l'islam, leur faire des enfants musulmans. Alors certains États dirigés par le parti nationaliste au pouvoir en Inde sont en train d'adopter des lois pour combattre ce Love Jihad imaginaire. Résultat, Christophe Paget, les couples mixtes sont harcelés encore plus qu'avant.
On empêche les gens d'aimer qui ils veulent. Ce sont les mêmes qui vous empêchent déjà de manger ou de vous habiller comme vous le désirez. C'est absurde. Ils nous renvoient des siècles en arrière.
Aditya Mukherjee, ancien professeur d'histoire contemporaine à l'université Nehru, est formel. Ces lois sont politiques. La première, adoptée en novembre dernier dans l'état d'Uttar Pradesh, punit de 10 ans de prison quiconque se marie pour forcer son conjoint à se convertir.
En Inde, il était déjà illégal de forcer quelqu'un à changer de religion, donc nous n'avions pas besoin de cette loi. Maintenant qu'il y a cette loi, quiconque se marie avec une personne d'une autre religion va être accusé d'utiliser le mariage pour la convertir, alors que ce n'est pas automatique. En fait, l'objectif n'est pas d'éviter les conversions forcées, mais de séparer davantage encore les hindous et les musulmans, de discriminer les musulmans et de faire peur à ceux qui veulent se marier avec quelqu'un d'une autre religion. Car s'ils le font, ils savent ce qui va se passer. Un des groupes satellites du BJP, le parti nationaliste hindou au pouvoir, va les attaquer et les accuser de conversion forcée. Eux-mêmes vont se défendre. Et cela crée une atmosphère de haine, de division.
En fait, en Inde, les mariages entre personnes de religions différentes sont assez rares. Mais cette théorie du love jihad joue sur une peur ancienne. Selon Christophe Jaffrelot, directeur de recherche au CERI Sciences Po, les hindous ont beau représenter 80% de la population du pays, ils ressentent un complexe d'infériorité envers les musulmans.
Il y a toujours eu cette hantise de la virilité musulmane qui est liée aussi au fait que les musulmans ne sont pas végétariens, que les végétariens hindous sont perçus comme moins forts physiquement, moins virils. Il y a là une peur qui s'est traduite aussi par une hantise du déclin démographique. Les musulmans auraient plus d'enfants. De fait, le recensement nous le confirme, mais pas pour des raisons religieuses, pour des raisons socio-économiques. La corrélation, elle est entre niveau d'éducation et de vie et dynamisme démographique. Mais il est certain que derrière cette théorie du complot, totalement infondée, il y a des stéréotypes qui ont la vie très dure parce qu'ils remontent très loin et que ça tapisse la psyché hindou depuis des décennies, voire un siècle.
Cette histoire de Love Jihad réapparaît périodiquement depuis une dizaine d'années. Linda Jenkins, professeure de sciences politiques à l'université de Cincinnati aux États-Unis, note ainsi qu'à chaque élection, les politiciens nationalistes l'utilisent pour mobiliser leurs militants. Mais aujourd'hui, ces théories conspirationnistes risquent de s'enraciner.
Avec ces lois, elles ne sont pas popularisées juste par des groupes à la marge ou uniquement sur les réseaux sociaux. Elles sont discutées dans les parlements. Elles sont adoptées par les partis politiques établis et aboutissent donc à des lois. Dans le premier État à avoir adopté cette loi, l'Uttar Pradesh, des dizaines d'hommes ont été arrêtés. Même si au final ils sont libérés grâce à l'article de la Constitution sur la liberté de religion, l'existence même de ces lois est un problème. Elles ont déjà mis des couples mixtes en danger. Et elle renforce les stéréotypes négatifs sur les musulmans et les femmes. Parce que tout cela revient à dire que les hommes musulmans sont des prédateurs et que leurs femmes sont incapables de se défendre et qu'il est impossible qu'elles aient choisi de se marier de leur propre chef. Tout cela va encore aggraver les discriminations que ces hommes et ces femmes subissent.
Selon Christophe Jaffrelot, avec cette loi entre autres, le ministre en chef de l'Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, est en train de faire passer le nationalisme hindou à la vitesse supérieure et de se positionner en possible successeur du Premier ministre Narendra Modi.
Venons-en au Covid-19, le variant anglais du coronavirus est en train de coloniser l'Europe parce qu'il est plus contagieux. Voilà une illustration de la sélection naturelle, cette loi universelle découverte par Darwin, Florent Guignard.
Un spectre hante l'Europe, celui du variant anglais du SARS-CoV-2, un mutant qui ne cesse de gagner du terrain, plus longtemps contagieux, un avantage indéniable sur la souche historique du coronavirus, comme l'explique Alexandre Assanin, chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris.
Les mutations, au départ, elles arrivent aléatoirement, hein, mais elles sont sélectionnées. Et sélectionnées en particulier parce qu'elles confèrent un avantage à ces virus, hein, par rapport, par exemple, à la contamination. Des variants qui vont être plus contagieux vont être sélectionnés dans les populations de virus.
C'est la loi du plus fort au cœur de la théorie de l'évolution du naturaliste anglais Charles Darwin. Et plus on se reproduit, plus on a de chances d'évoluer. Alors évidemment, pour les humains, c'est beaucoup plus lent que pour les virus. Mylène Veil est directrice de recherche au CNRS. Elle travaille à l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier.